Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hello les mamas, bienvenue dans le podcast qui parle de la maternité, la vraie. Celle qui épanouit, qui intrigue, qui fait peur. Celle qui bouleverse, qui construit, qui propulse en terre inconnue. Celle qui concerne tant de femmes que l'on entend si peu. Chaque semaine, l'une d'entre vous nous raconte son histoire sans filtre. Est-ce qu'elle a toujours rêvé de devenir mère? Comment s'est passée sa première grossesse? Quelles ont été les joies et les épreuves qu'elle a traversées? Qu'est-ce que la maternité a changé dans sa vie? Des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chère mamase, future mamase ou pas mamase du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Imaginez, vous grandissez dans une société qui n'est pas adaptée pour vous. Pire, dans une société qui vous pointe du doigt tout au long de votre vie parce que vous ne correspondez pas à la norme, parce que vous êtes grosse, obèse. Anne-Sophie a eu une enfance difficile qui a laissé son réservoir d'amour assez vide et qu'elle a dû combler avec des troubles du comportement alimentaire. Marquée par ses traumas, elle n'envisage pas de devenir mère un jour par peur de faire souffrir à son tour un enfant. Pourtant, une rencontre va tout changer et lui donner l'envie de créer sa famille. Commence alors son parcours de maternité durant lequel Anne-Sophie va être confrontée à diverses humiliations par les professionnels de santé et à des préjugés dans son quotidien. Anne-Sophie avait deux possibilités, se laisser écraser par le poids des injonctions ou en faire une force. Je vous laisse découvrir dans ce nouvel épisode toute sa sensibilité mêlée à l'envie furieuse que plus jamais une femme ne soit méprisée pour son poids. Bonne écoute.
Hello Anne-Sophie.
Bonjour.
Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas.
Bah, excessivement ravie, sincèrement.
Plaisir partagé. Alors toi, tu es la maman d'un petit garçon.
Oui.
Il a quel âge?
Il a 9 ans.
Ouais. Toi, plus jeune, quel regard tu avais sur la maternité? Est-ce que tu t'es toujours dit « je deviendrai mère un jour » ou c'était pas un sujet qui t'intéressait forcément?
Alors, c'était même pire que ça. C'était « je ne veux pas être maman ».
Ah ouais?
Ouais. Je ne veux pas être maman parce que j'ai, voilà, c'est la vie, hein, mais j'ai été l'enfant de parents divorcés.
Ouais.
Et que, en fait, bon, le divorce de mes parents, c'était pas bien passé.
Mmh.
Et pour le coup, j'ai été un peu marquée au fer blanc, pour pas dire autre chose.
OK.
Et que je ne voulais absolument pas, en fait, reproduire ou faire subir. Alors après, on sait pas ce que la vie nous réserve. Mmh. On est bien d'accord, mais j'étais un peu à chaud.
Mmh.
Et en fait, je me souviens une fois à la gynéco, j'avais quoi, 24, 25 ans, me dit « Alors, bébé ?»
Ouais.
Je lui ai dit « Ou pas ?» Et elle m'a regardé avec des yeux en disant « Mais comment ça, vous êtes une femme, vous voulez pas d'enfant ?» Je dis « Mais en fait, c'est ma vie, c'est mon corps. Donc là, comment vous dire que c'est pas du tout, du tout, du tout dans le scope ?»
Ouais. T'as vécu avec ta maman ou avec ton papa ?
J'ai vécu sans l'un ni l'autre de 4 à 6 ans.
Ah oui ?
Et après, donc on était dans les années 70, hein, début des années 70. Et après, en fait, c'est mon père qui a récupéré ma garde et ça s'est particulièrement mal passé.
Ah ouais, d'accord.
Donc j'ai été éloignée de ma mère et là, ça c'est...
C'est ça qui a été difficile.
Ouais, très très dur.
Ok. Comment tu t'es construite alors avec tout ça
Ben, on se construit comme on peut.
Ouais.
Avec ce qu'on a, j'ai envie de te dire. Je crois que... Et j'ai un regard, mais vraiment, vraiment très humble et très sincère et très affectueux de toutes ces mamans monoparentales qui font ce qu'elles peuvent.
Mmh.
Et je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point ce n'est pas simple.
Oh oui.
Et les yaka faucons, ben, mettez les pieds dedans et vous allez voir que voilà... Donc, j'ai récupéré ma mère après tractation juridique un peu violente. J'avais 13 ans et demi.
Ah oui.
Donc, en fait, il y a eu une période où, enfin, tu vois, un âge qui est quand même très important, mais ça, tu t'en rends compte quand t'es parent, en fait.
Oui.
Mais un âge qui est charnier, sur ta construction en tant qu'enfant, futur adulte, etc. Et puis, ben, quand j'ai retrouvé ma mère, alors évidemment, j'avais l'impression de marcher sur la lune, évidemment. Ça a déclenché des TCA, des troubles du comportement alimentaire, parce que je me rendais compte de ce que j'avais vécu qui n'était pas la norme, de cet éloignement maternel qui avait été une souffrance véridique et profonde. Et puis, en plus, je cumule les tâches, je suis une hypersensible.
Ok.
Donc, Donc, j'avais un peu la checklist.
Ouais.
Et puis après, je suis devenue, alors d'ailleurs, dans le livre, je le dis, je suis devenue dans mes remerciements, je dis à ma sœur pardon, parce que ma demi-sœur, mais j'ai dit, je suis arrivée comme un vampire assoiffé d'amour maternel. Mais c'était vraiment ça. Et je suis très proche de ma mère. Ma mère a pas eu cette éducation-là. C'était une famille du Nord. Pareil, je suis très attachée au nord de la France. Famille du Nord où il y avait 12 enfants.
Ah ouais.
Donc, famille nombreuse, où il n'y avait pas le temps pour faire des câlins.
Ouais.
Tu vois. Donc, elle n'avait pas été élevée dans ce sens-là. Et moi, j'arrive avec des troubles affectifs colossales. Donc voilà, ça a créé un déséquilibre. Ouais. Et ce qui a fait que, si tu veux, j'avais... Pour moi, faire un enfant... c'était prendre le risque éventuellement de le faire souffrir avec une immaturité affective terrible.
Ouais.
Et je ne me voyais pas, je ne me sentais pas prête à ce moment-là à avoir un enfant.
Ok. Et tu parlais là des TCA. Quel rapport t'avais à la nourriture plus jeune ?
Mon père me privait de nourriture.
Ah ouais, ok.
Donc, quand t'as 10, 11, 12 ans, même si t'es une fille... T'as faim, en fait.
Bien sûr.
Et une fois, je me suis retrouvée dans le frigidaire à manger un morceau de saucisson qui faisait 5 cm, saucisson à l'ail. Le lendemain matin, j'avais des boutons partout. Voilà, j'avais pas le droit de goûter. Enfin, voilà, je vais pas faire Cosette, mais c'était pas génial. Et quand je suis arrivée chez ma mère, je suis rentrée dans une famille dite normale.
Ouais, avec plus d'accès à...
Ben, j'étais pas enfermée dans ma chambre tout le temps. Si j'avais faim, je pouvais aller dans le frigidaire ou dans le placard. Si j'avais envie de sortir, j'avais le droit de sortir. Si j'avais envie d'écouter de la musique, j'avais le droit d'écouter de la musique. Enfin, c'est horrible à dire, hein, mais c'était ça. Donc, en fait, quand j'ai... Tu pars d'un endroit, t'arrives à un autre, tu te rends compte de la différence entre les deux. Et tu te dis, alors ça m'a l'air plus normal que ça.
Ouais.
Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment je gère les choses ? Et là, on était donc début des années 80. Et alors, la gestion de la santé mentale à l'époque...
Inexistante.
C'est ça. Et là, une fois, je me souviens, j'ai dit à ma mère, à mon beau-père, je vais pas bien. Et ils ont fait avec ce qu'ils avaient à l'époque. Ils m'ont dit comment ça, tu vas pas bien, t'as tout. Arrête de te plaindre. Mais en fait, ils avaient pas cette sensibilité-là et ils avaient pas la pleine connaissance de ce que j'avais vécu parce que je ne voulais pas les accabler encore plus. Les enfants ont une part d'empathie.
Ils protègent leurs
parents. Qui est colossale.
Ouais.
Colossale. Et toi, tout ça mis bout à bout faisait que je ne me sentais pas de prendre le risque de faire mal à quelque chose qui m'était cher. Après, j'ai grandi, j'ai mûri, j'étais une maman, une vieille maman, comme ils disent dans les maternités. Vous êtes un ancêtre à cet âge-là, en fait, on fait plus d'enfants.
Ouais, les fameuses grossesses
gériatriques. À fond.
Alors, comment c'est arrivé, justement ? À quel moment tu as switché de « je ne veux pas faire de mal à un potentiel bébé en devenant maman » à « bon, finalement, ça se tente ».
J'ai rencontré la bonne personne.
Ouais.
J'ai rencontré la bonne personne. Alors bon, entre-temps, j'ai fait du travail sur moi. Hein. J'ai fait 4 ans de thérapie. Je traîne dans le milieu médical depuis 30 ans ou un peu plus. Je travaille en collatéral dans le milieu médical avec des sociétés savantes, des médecins, etc. Donc, j'ai appris beaucoup, j'ai appris de moi. Et puis, en fait, tu te rends compte qu'en fonction des gens que tu vas fréquenter, bon gré, mal gré, que tu le veuilles ou pas, tu vas croiser des gens qui vont être toxiques et tu vas croiser des gens qui vont être bienveillants. Et évidemment, quand tu as un trouble affectif à la base, tu sais pas trop qui est quoi, qui est bon et pas bon, en fait. Ouais. Et puis, voilà, la vie a fait que j'ai rencontré mon cher et tendre à un âge particulièrement délicat où j'avais des problèmes de santé, où j'étais passée au bloc parce que j'avais perdu beaucoup de poids. J'ai fait une chirurgie bariatrique pour mon obésité.
Alors, l'obésité est arrivée à quel moment ?
Elle est montée progressivement quand je suis arrivée chez ma mère.
Ah oui, d'accord. Quand tu as eu
à l'adolescence.
Accès à ouais. plus de choses, tu as compensé ?
J'ai compensé finalement mes traumas.
Ouais.
Donc, très clairement, des troubles du comportement alimentaire, mais pas du tout identifiés à l'époque.
Ouais. Puis, tu as l'excitation un peu d'avoir accès à tout, peut-être oui. aussi à ce moment-là.
Et je vais te dire, avoir accès à tout et surtout de se dire. On m'a fait mal, affectivement parlant. Comment je peux apaiser cette souffrance ? Et là, tu vas sur... tu veux remplir ton corps qui est en fait ton cœur qui est vide.
Oui.
Enfin, je sais pas si...
Ouais, tu combles.
Voilà.
Ouais, tu combles les failles. Les...
Et tu te dis, il faut remplir, il faut remplir, il faut protéger, il faut protéger. Comment on protège ? Et inconsciemment, t'es en panique avec toi-même.
Mmh.
Et tu te dis, mais ton cerveau, il se met aussi un peu en alerte. Et puis en disant, ou alors réfléchis pas trop. Parce que alors là, c'est pas trop bon. Là, si tu réfléchis trop et que tu te rends compte finalement de ce qui s'est passé, de ce qui s'est pas passé. Et l'obésité, elle est montée crescendo. Alors, il y a une génétique hein,
okay.
du côté de mon père. Donc, finalement, tous les trucs un peu pourris qui pouvaient faire que je pouvais déclencher une obésité, j'y suis allée.
Ouais.
Tous les intervenants étaient là, j'ai envie de te dire.
Mmh.
Et puis, donc, je suis montée crescendo dans cette obésité. Et après, j'ai fait des études qui ne correspondaient pas à l'époque du tout à ce que mes parents voulaient que je fasse. Et j'ai réussi à le faire parce que je me suis révélée un caractère qui était plus fort que ce que je pensais moi-même.
Ouais, t'as fait quoi comme étude ?
J'ai fait les beaux-arts et l'école d'archi. Donc, en fait, formation, je suis architecte intérieur, designer.
D'accord.
Spécialisée en monuments historiques.
Oh, ok.
Et ma maman voulait que je fasse le même métier qu'elle, qui était celui de secrétaire.
Ouais, autre chose.
Et moi, j'étais plus...
créative.
Ouais, j'avais deux passions. Quand j'étais toute petite, je regardais les monuments historiques avec des grands yeux, Tex Avery, genre, mais comment ils ont fait ouais. C'est beau, c'est magnifique, le détail, le truc. Et l'autre passion, comme quoi hein, la vie, les trajets, c'était la médecine.
Ok.
Donc, l'un des deux, j'aurais fait les deux.
Mm.
Donc, quand j'ai fait mes études, bah, évidemment, école public. Donc, si tu n'as pas tes partiels, tu dégages.
Ouais.
Et là, je me suis mis à bosser, à bosser, à bosser, à bosser. J'ai envie de te dire, plus de 30 ans après, ça n'a pas changé de bosser comme une effrénée. Mais je me disais, tu n'auras rien sans rien. Donc, donne-toi la chance de.
Ouais.
Essaye.
Ouais, les traumas, en fait, t'ont donné et une faiblesse et une force
ouais.
d'y aller aussi.
Oui, parce que on entend tous, oui, mais tu vas pas être capable de, regarde-toi, regarde ta vie, enfin, t'es qui pour pouvoir prétendre à rêver à des trucs irréalistes ? Et je me dis, mais c'est toi qui penses ça ? Moi, si j'essaye, je me casse la gueule, au moins j'aurais eu le mérite. Vis-à-vis de moi-même, d'essayer.
Ouais.
Je l'aurais fait.
Mm.
Et je me serais dit, ça, c'est pas pour toi.
Ouais, donc, tu as quand même eu cette force, tu as cette force de caractère. Parce que bon, la société a une vision très cadrée de ce que doit être une femme, du physique qu'elle doit avoir, mm-hmm. du comportement qu'elle doit avoir. Donc, soit ça t'écrase, ou soit tu te dis, j'y vais quand même. Toi, tu as plutôt été dans la deuxième catégorie ou ça dépend des fois?
Très, non, c'était la deuxième catégorie, mais parce que la vie, au sens large du terme, alors j'ai envie de te dire, te laisse pas le choix, mais te laisse le choix quand même. Le nombre, j'en parlais encore tout à l'heure, le nombre de saloperies qu'on peut entendre au quotidien,
ouais,
sur tout un tas de trucs. Mmh. Je me dis, mais à un moment donné, toi, je me suis dit, mais ils sont qui ces gens-là? Ils sont qui pour se permettre d'avoir des injonctions sur une vie qui n'est pas la leur? Et je me suis dit, ma fille, il y a deux solutions. Soit tu te fais bouffer en permanence, soit tu te bats. Alors, ça ne va pas être le chemin le plus simple. Mmh. On est bien d'accord. Et pas le moins douloureux.
Ouais.
Mais au moins, t'auras essayé, et puis ben voilà, si tu dois échouer, tu échoueras, mais t'auras au moins eu cette satisfaction avec toi-même d'y avoir été. Et je ne voulais pas, moi, quand on me dit tu vas pas réussir, je me mets en recul, j'analyse, je prends le temps d'analyser, mais vraiment. Et puis après, je me dis, bon, alors, est-ce que tu le sens, tu le sens pas, Anso, est-ce que tu dois y aller, pas y aller? Et puis je me dis, ouais, bah, je tente. Si je suis convaincue de mon truc, je le fais.
Ouais.
Mais je vais tout donner. Et puis ben je réussis pas, c'est pas grave. Mais je suis devenue quelque part une espèce de féministe, pas orque-boutiste, mais je me dis, mais ma vie a autant de valeur que la vie de quelqu'un d'autre, quelle que soit la nature du sexe. Donc comme j'ai pas vraiment envie de me faire décapiter au premier tour de table, je vais au front.
Et alors, donc, tu disais que ton obésité est allée crescendo.
Ouais.
À quel moment tu décides de subir une opération?
Alors, bah, je suis en presse médicale.
Ouais.
Je travaille, je vois très bien ce qu'on écrit aux médecins. Alors, il y avait 17 titres hein, médicaux, 11 spécialités de médecine. Donc, bon, il y avait de l'actu. Et puis, quand j'allais en consultation chez les médecins, ils me disaient, oh, bon, enfin, bon, Madame Jolie, on va peut-être se calmer. Arrêter de bouffer, aller courir, le problème va être réglé.
Ouais.
Et là, je me dis, t'as fait médecine, rappelle-moi, t'es sûre que t'as fait médecine?
Ouais, puis zéro empathie.
Oh, et puis alors, zéro empathie en plus, enfin, plus pour l'obésité.
Là, il y avait déjà le projet bébé qui était enclenché ou pas du tout?
Okay. Pas du tout. J'avais juste envie d'essayer d'aller mieux.
Ouais.
J'ai une génétique cardiaque, puis les articulations, comment te dire, qu'au bout d'un moment, elles te regardent puis elles te font « Ouais, alors là, t'es pas drôle, en fait.
Ouais. »
Donc, je me voyais finir crise cardiaque sur un fauteuil roulant, en fait.
Mmh. Et à là, quel âge t'avais, là?
J'avais 27, 28 ans.
Mmh.
Et là, je me dis « Faut faire quelque chose. » Donc, j'ai fait carrément une étude de marché parce qu'il n'y a pas d'autre terme que ça. Et puis, là, je suis rentrée dans un parcours de soins. J'ai vu un grand professeur à Bichat qui m'a dit « c'est ça et pas autre chose ». Et là, je me suis dit « oula, alors toi, le « c'est ça et pas autre chose », ça, c'est sans compter sur ce que je vais penser moi. » Et puis, j'ai revu mon endocrino et j'ai dit « alors... j'ai cherché et en fait, ben non, il y a d'autres possibilités. Je veux aller voir quelqu'un d'autre. Je suis arrivée à Lyon et là, j'ai posé ma vingtaine de questions au chirurgien. Et puis j'ai dit, alors on va se mettre d'accord tout de suite, sinon je m'en vais. Je dis, là, je viens de Paris. J'ai pris le train. Et je dis, si vous ne répondez pas à mes questions, je sors immédiatement. Et là, il m'a regardé, il me dit, oulala, d'où vous sortez, vous? Parce qu'habituellement, on ne pose pas autant de questions. Je dis, ben pardon, mais c'est ma vie. Ouais. Donc, partant du principe que c'est ma vie, tu réponds pas aux questions, je m'en vais. Et puis, en fait, on a pris mais une heure et quart de consulte et il m'a tout expliqué. Il m'a sorti un tableau, il m'a fait des schémas. Et il m'a dit, purée, des comme vous, tous les jours, j'en veux, quoi.
Ouais.
Et c'est parti là, donc j'ai fait une chirurgie bariatrique, j'ai perdu beaucoup de kilos. J'ai fait une première une complication où j'avais fait un Mason, c'était un agrafage vertical calibré de l'estomac. C'est l'ancêtre de la sleeve.
C'est quand on réduit la taille de l'estomac, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on continue un peu, si tu veux, la capacité de l'œsophage. Ouais. Donc en fait, tu réduis de deux tiers, un quart, la capacité stomacale. Donc tu réduis la quantité du bol alimentaire. Mis à part que l'ancêtre, c'était un agrafage vertical calibré où en fait, on avait l'équivalent, l'estomac devenait l'équivalent de la taille d'un pot de yaourt.
Ok.
Avec trois rangées d'agrafes en titane. Et moi, au bout de 2 ans et demi, j'ai un morceau de poulet pourtant, hein, viande blanche, qui s'est coincé dans les agrafes en titane et qui m'a arraché des agrafes.
Ah, wow.
Donc c'est bien, on découvre des parties de son corps qu'on ne connaissait pas.
Okay.
Donc et là, je me suis dit, il y a un problème, parce que tu sens des trucs bizarres quand même. Donc j'ai fait un examen, j'ai fait un TOGD, j'ai été regardée et j'ai demandé à voir l'écran de contrôle. Le radiologue, il me dit, oui, vous n'êtes pas radiologue. Je dis, alors on va la reprendre. Je suis la patiente, merci de me tourner le tableau de contrôle. Et puis là, on voit très, très clairement le produit révélateur qui part dans les deux sens. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai compris. Donc je suis repassée au bloc. J'ai posé un anneau gastrique sur mon montage. Et je suis arrivée en totalité à une perte de 70 kilos.
Ah ouais, c'est...
Donc j'ai évidé mon corps, j'allais vachement mieux. Et en fait, mes seins se sont complètement évidés. Donc j'ai fait de la chirurgie réparatrice.
Ouais.
Et on m'a posé à l'époque des prothèses PIP. Donc les fameuses prothèses...
Ouais, qui sont interdites maintenant.
Ah bah oui, mais avec de l'huile de moteur de pneus dedans. Et au bout de 10 ans, je reçois une lettre recommandée me disant « Bon, bah voilà, vous avez des prothèses PIP. Dans l'intérêt de votre santé, on vous conseille de les explanter. » Alors là, je me souviens, c'était un samedi matin, j'étais dans l'entrée de mon appartement. Je me suis, mais littéralement, retrouvée par terre. Mes jambes se sont fondues, si tu veux. Et là, je me dis « Purée, je fais tout de façon méthodique. » À la lettre, pour que tout se passe bien. Et là, on vient de me dire qu'on m'a collé des bombes dans le corps.
Mmh.
Et là, je me dis, purée, ça va chier. Donc, j'ai pleuré.
Ouais.
Et puis, j'ai fait explanter mes prothèses un mois après. Et là, je suis partie 5 mois et demi en infection parce que j'avais un gros trou dans le sein, sous le sein. Et les prothèses avaient sointé. Et on avait évidemment desserré l'anneau, c'est la procédure obligatoire d'intervention, pour pouvoir, en cas de complication, pouvoir intervenir et aspirer les vomissures. Ça, c'est process retour anesthésie.
Ok.
Et au bout de 5 mois et demi, je veux resserrer mon anneau. Et là, impossible, j'étais aphagique. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à avaler ma salive, ce qui est un risque vital. Ça, je l'ai fait 4 fois.
Ah oui.
Et là, on m'a dit, oublie, c'est plus possible, ça ne marche plus.
Okay. Donc là, tu as l'anneau desserré.
Tout est desserré. J'ai repris 60 kilos.
Ah ouais, direct.
Et là, je me suis dit, bon, ma fille, on va respirer. Tu as 42 ans. Tu te prends merde sur merde. La boîte pour laquelle je travaillais était en liquidation judiciaire.
Ouais, quand un problème arrive, généralement, tout le monde se manifeste.
Et puis là, tu te dis, bon, écoute, bah, il te reste ton appart et ton chat. Et je me suis dit, j'ai pleuré. Hein.
Ouais.
J'ai pleuré pendant un mois et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et à chaque fois qu'il m'arrive un coup dur, je me dis, t'es pas la seule. Il y en a plein qui en chient tout le temps. Et il y en a plein qui en bavent encore plus que toi. Donc, par respect pour eux, Anso, tu te lèves et t'avances.
Mmh.
Donc, au bout d'un mois, c'est ce que je me suis dit et je suis repartie au combat.
Ok.
Et là, comme quoi la vie te met des trucs sur le chemin, ben, à force d'aller au tribunal pour aller défendre le bout de gras des pauvres salariés qui restaient comme moi,
ouais.
Ben, j'ai rencontré... Enfin, plutôt, il m'a rencontré. Un avocat qui travaillait là, et puis Et puis, il m'a dit, ah, moi, je peux vous aider. J'ai dit, ouais, alors, comment te dire? Loin de moi, s'il te plaît. Et puis, en fait, il a jamais lâché le morceau. Il a couru, hein. Comment te dire que il a couru, puis alors il s'est accroché aux branches, à tout ce qu'il pouvait tenir. Et moi, je faisais tout pour que, qu'il se passe rien et que, parce que j'avais pas la tête à ça.
Ouais.
Et puis, un jour, il me dit, bon, alors, je sors du bureau dans quelques minutes, éventuellement, on peut se retrouver. J'ai dit, ou pas. Et en fait, je venais de sortir de la consultation de mon endocrino qui me disait qu'il fallait absolument que je repasse au bloc.
Ok.
Et là, j'ai dit, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et j'ai dit, écoutez-moi bien, là, moi, je suis sur le chemin pour rentrer chez moi. Donc, si tu veux me voir, tu as une demi-heure, on se retrouve à tel endroit ici. Passer ce temps-là, si t'es pas là, je m'en vais. Mais alors, le repoussoir total, Anso. Eh ben, il était là en avance,
ouais.
Parce qu'il faisait un froid de gueux. Donc, moi, je m'étais planquée dans un magasin pour rester au chaud. Et il faisait le tour de la station de métro en regardant sa montre en disant « Purée, merde, elle s'est déjà barrée. »
Ouais, pour être sûre de ne pas te louper. Donc là, coup de foudre. enfin, coup de foudre.
Ouais.
Pour lui, en tout cas, au tribunal.
Ouais, parce que moi... Et puis, il m'a dit, faut donner sa chance au produit. J'ai trouvé ça très drôle. Et puis, il me dit, c'est pas parce que tu vis des merdes que toute ta vie va être négative.
Mm.
Et je me suis dit, ah, il a deux neurones. et puis, voilà, donc on s'est fréquentés, on a discuté.
Et à quel moment est venu le sujet donc, de la parentalité?
Ben, le sujet de la parentalité, il est venu en me disant, je vais le faire fuir. Dans la méthodo comment faire fuir quelqu'un. Et je lui dis, on va être très clair. Moi, si j'entame une relation avec quelqu'un, c'est pour créer une famille, pour avoir un enfant.
Ah ouais, donc tu avais déjà quand même changé ton regard sur ce que...
Je voulais plus perdre de temps.
Mais tu avais plus peur de devenir mère à ce moment-là.
Si.
Tu avais toujours peur.
Moins, mais j'avais toujours peur.
Mais le désir était plus fort, ouais. Ok.
Et je me suis dit, avec ce que je viens de lui dire, il va partir. Et en fait, il m'a regardé, il m'a dit, pour une fois qu'il y en a une qui sait ce qu'elle veut, je me suis dit, merde, putain, ça n'a pas marché.
La réponse à tout, celui-là.
Ouais, un peu.
Et les bonnes réponses.
Et puis, en fait, on s'est mis ensemble et un an après, il m'a demandé en mariage.
Mmh.
Et il m'a dit, est-ce qu'on essaye de faire un bébé? Et là, je lui ai dit, ouais, si mon corps est d'accord.
Ouais.
Donc, je vais voir la gynéco. Et là, je lui dis, coucou, me voilà. Et là, elle me regarde, puis elle me dit, quel âge, quel poids, le trajet médical, nombre d'opérations. Puis elle me dit, ça sent pas bon.
Ah ouais.
Et elle me dit, je vous invite à aller voir le grand professeur de la place de Paris, machin. Donc, elle me dit, faites quelques examens et puis prenez rendez-vous. Je prends rendez-vous et bon, évidemment, le délai... Quelques mois après, on le rencontre. Et là, je crois que ça a été l'une de mes plus grosses humiliations que j'ai pu vivre. J'arrive donc dans le cabinet. Alors, il avait des vieux fauteuils style Moyen-Âge avec des accoudoirs en bois.
Mmh.
Donc, deux fauteuils. Donc, mon cher étant s'assoit à côté de moi. Il le regarde droit dans les yeux, puis il lui dit « Oh là là, c'est bien les examens que vous avez faits, monsieur, parfait !» le sperme est de qualité, il y a la quantité, merveilleux, bravo.
Champion.
Ouais, c'est ça. Je me suis dit, bon, ok, ça c'est fait. Et moi, il arrive à moi et il ne me regarde pas. Il ne me regarde jamais. Et tout en baragouinant, tête baissée sur ses feuilles, puis il dit, bon, alors vous, on va être très cash. Vous êtes vieille.
Oh.
Vous êtes grosse. Vous êtes multi-opérée. Et pour être très simple, vous n'avez aucune chance d'être enceinte. Et là, mes mains, tu vois, mes doigts étaient en train de devenir des crochets et s'enfoncer dans les accoudoirs en bois. Et mon visage se transforme. Et je voyais mon cher et tante qui était là et essayait de me toucher l'avant-bras, genre « Anso, ça va aller, Anso, ça va aller. » Et j'étais là, pas touchée, je me mets en mode hyène, ouais, ouais. En fait. Et il me dit, bon alors, pour la faire courte, si vous voulez avoir, sans jamais me regarder, hein, si vous voulez avoir une chance d'avoir un enfant, vous me faites un virement de 7000 euros et vous allez soit en Roumanie, soit en Espagne et moi, je peux vous faire faire un bébé.
Avec et là, une mère porteuse, il
entendait ? Non, insémination artificielle. D'accord. Et là, je lui fais pardon.
Oui, il te laisse même pas ta chance.
J'ai fait. Même pas compris là. Je pense, soit je pense trop bien comprendre, soit je pense que j'ai pas compris. J'ai dit, mais attendez, j'ai arrêté la pilule il y a que quelques mois. Ça fait plus de 25 ans que je prends la pilule. Peut-être laisser mon corps se réveiller. Enfin, je sais pas. Il y a un truc un peu, voilà, tu vois, comme petit peu comme. Au moins, ouais, c'est ça, tu vois. Puis peut-être des filles. Enfin, il y a peut-être des choses à faire avant d'en arriver là. Et là, il me dit, mais non, vous êtes vieille, vous êtes grosse, enfin, c'est clair, vous n'y arriverez pas. Et il dit, allez, on va être généreux, je vous donne 0,5% de tomber enceinte toute seule.
Wow.
Et là, je me dis, je vais le frapper à quel moment ? J'étais remplie d'émotions, je n'avais qu'une envie, c'était de me mettre à pleurer à chaudes larmes. J'avais ma bague de fiançailles au doigt et je n'arrêtais pas, si tu veux, de la tortiller comme ça. Et je lui dis, écoutez-moi bien, vous allez me prescrire là, maintenant, tout de suite, l'examen pour regarder le nombre de follicules, etc. Je le veux. Et je ne partirai pas tant que je ne l'aurai pas. Oui, bon, alors ça fera 150 euros, 10 minutes, juste à regarder des papiers et surtout pas à me regarder moi. Il me dit, bon, bah si ça vous amuse, je vous fais votre prescription. Je dis, non, ça ne m'amuse pas, c'est votre devoir. Je vous rappelle que vous êtes censé être un médecin. Et je sors de là, mon cher étant qui cherchait à essayer de me consoler, et je voulais absolument pas qu'il me prenne dans ses bras, parce que je savais que j'allais m'effondrer.
Ouais.
Je récupère le papier, on sort sur le trottoir, et là je prends ma bague de fiançailles et je lui dis, je ne pourrai pas tenir notre contrat.
Ouais, ouais, ça remet tout en question là.
Et je lui dis, je te donne ta liberté.
Ouais, il t'a écrabouillé le professeur. T'as dit que.
Pardon.
Non, bah, t'inquiète. Ça, c'est l'effet podcast.
Et je lui dis, je t'aime suffisamment ou assez pour, si t'as un désir d'enfant et tu as un désir d'enfant, je pourrais pas te le donner. Donc, je te libère de ton engagement. Et je te souhaite le meilleur pour pouvoir trouver quelqu'un qui puisse te faire un bébé. Et là, et c'est là où je me suis dit que j'avais, même si j'avais fait beaucoup de résistance, je pensais que j'avais fait le bon choix. Il m'a dit, j'ai mis 44 ans à te trouver. Donc, on élèvera des poissons rouges, des chats, des conchons dingues, mais je ne te lâche pas. Et 9 mois après, sans aller voir qui que ce soit, à part faire mon examen où j'avais les follicules qui se réveillaient, je suis tombée enceinte naturellement.
Alors, raconte le moment où tu as découvert ta grossesse.
Alors, je vais vous faire rire, c'est mon chat qui l'a su avant moi.
Ah oui.
C'est que Charlie, qui on était très pot de colle, et puis au bout de 3 semaines, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a ? Il me fait la gueule. Il me fait la conversation du cul tourné. Tu sais, je suis à côté de toi, mais en fait, je te montre mes fesses plutôt que de te montrer machin. Je veux pas que tu me câlines, je veux pas machin. Donc, je pense qu'en fait, j'ai dégagé des odeurs. Et lui, il l'avait senti avant moi. Mmh. Et puis, ben, évidemment, j'avais plus la pilule. Donc, je sentais que, ben, à chaque fois que tu voyais tes règles arriver, alors que tu voulais essayer d'avoir un enfant, ben, tu pleurais toute seule dans les toilettes, évidemment. Ouais. Et puis, ben, là, je me dis, bon, ben, voilà. Et puis, je me souviens, je devais partir en congrès de chirurgie, et j'avais mal au ventre, mais mal au ventre. Et je me dis, oh là là, ça doit tirailler à l'intérieur, je dois avoir un problème avec mes ovaires. Bon, mais faut que je tienne. Et j'en discute avec une copine, et puis je lui dis, écoute, je vais prendre rendez-vous chez le médecin parce que j'ai vraiment mal, quoi. Et elle me dit, prends un test de grossesse avant,
ouais.
Parce que t'es peut-être enceinte. J'ai dit oui, mais t'as raison, allez, va jouer. Je vais chez le médecin généraliste. Je lui dis, écoutez, je cherche à être enceinte. Et là, le MG me dit, oui, bon, enfin, il faut arrêter, Madame Jolie. Enfin, vous rêvez. On est bien d'accord. Il n'y a aucune chance que vous soyez enceinte.
C'est incroyable.
Et là, je me dis, allez, tiens, boum, on s'en reprend une au passage. Et il me dit, vous allez faire une échographie. À mon avis, vous avez des kystes sur les ovaires. Ça doit être ça, je ne vois pas autre chose. Donc, je sors de là. Je vais chez le pharmacien, j'achète un test de grossesse. Et puis, on attend d'être tous les deux à la maison le soir. Et j'ai dit, bon, bah voilà ce qui s'est passé. Et j'ai dit, je vais faire un test. Alors, il ne savait pas trop quoi me dire en me disant, putain, si elle est déçue, ouais. Ça va être dur.
Ouais, moment délicat, là.
Ouais. Mm. J'ai dit, écoute, j'ai rien à perdre. Donc, je vais le faire et puis il se passera ce qui se passera. Mm. Donc, il était assis sur le canapé en mode consultation avant d'aller chez le docteur. C'est droit comme un i. moi, je vais dans la salle de bain et puis... Et puis, donc, je fais le test et j'avais peur de regarder. Donc, t'es là, comme ça, à secouer le truc en me disant, bon, alors, hein? Je laisse dépasser le temps de révélation en me disant, pour être sûr que le truc soit bien clair. Il me dit, ça va? Je dis, ouais, ça va, ça va. Et je regarde et là, je vois, putain, vous êtes enceinte. Et là, je regarde bien le... Tu re-regardes le mode d'emploi, tu re-regardes le truc. Tu te dis, ça va, j'ai bien compris. Je j'hallucine pas. Et là, je me suis mis, chose que je ne fais jamais, à hurler. Ouais, je suis enceinte. Et là, je l'ai vu arriver en mode, t'es sûre, tu as bien lu. Tu as bien regardé, on est bien d'accord. Et là, j'ai dit, purée, quel cadeau, nom de Dieu.
Alors, comment s'est passée cette grossesse?
Alors, je crois que je me suis mis dans une bulle.
Ouais.
Et je me suis dit, je ne laisse rentrer absolument personne dans cette bulle. Mmh. C'est mon bébé et moi.
Ouais.
Le premier qui vient me chercher des noises, il est mort. C'est très, très clair, il est mort. Mmh. Je me suis comparée au monde animal... avec toutes ces mamans d'animaux qui défendent bec et ongles leur bébé. Mm. Et je me suis dit, mais mon Dieu, quoi. J'ai passé 9 mois à caresser mon ventre.
Tu avais des risques particuliers de faire de l'obésité?
Ouais. Risque d'hypertension artérielle, diabète gestationnel.
De fausse couche?
Pré-éclampsie, fausse couche. Okay.
Donc tu avais cette pression où tu as réussi à...
Je ne voulais pas l'écouter.
Ouais, ok.
Je savais qu'elle était là, j'ai connaissance aiguë du sujet, mais je me suis dit non, non, mets toutes les chances de ton côté. Et toutes les chances de ton côté, c'est une bonne santé mentale, une bonne qualité de vie, et tu écoutes ton corps. Vous êtes deux. Ta priorité, c'est deux. Et là, j'étais en réunion, j'ai travaillé, alors ça c'est pas bien, j'ai travaillé jusqu'à 17h la veille de la césarienne. Mais à un moment donné, la sage-femme disait, bon bah alors Anne-Sophie, il va quand même falloir arrêter de faire l'international. D'accord, on arrête l'international. Maintenant on va arrêter de faire du national. D'accord, on va arrêter le national. Maintenant, on arrête de faire du Paris. D'accord. Donc, en fait, je faisais mes rendez-vous au café en bas, là.
Ouais.
Donc, à quelques mètres.
Tu pouvais sortir, parce qu'il y en a qui sont alités. Hein.
Ouais, ouais. Non, j'avais encore cette chance-là. Ouais. Donc, tous mes rencarts venaient au café en bas. Ils étaient ravis. Hein. Ils n'ont jamais vu passer autant de monde. Et ils disaient, mais vous êtes enceinte, Anne-Sophie. Ouais, ben, je suis enceinte, mais je ne suis pas malade. Je suis enceinte. Donc, je dis, moi, j'ai besoin que là-haut... Ça phosphore pas, ça va pas.
Oui. T'avais envie de prouver aussi que en étant grosse et enceinte, on peut gérer et on peut.
Non, même pas du tout. Okay. Pour moi, j'avais besoin d'être dans mon bien-être et mon bien-être, c'était de si j'avais besoin de dormir, je dormais. Alors ça, je me disais, j'ai dormi. Enfin, en tout cas, l'après-midi, parce que la nuit, c'était une autre paire de manches. Mais j'avais besoin de cette santé mentale à tout niveau. Mm. Et moi, ça passait par faire ce que je fais, en fait. Ouais. J'étais en réunion et parfois, il m'arrive encore de caresser mon ventre.
Ouais.
Alors que mon ventre, quand je n'arrivais pas à tomber enceinte, une fois, je me suis vue dire, toi, taper sur mon ventre en disant « Putain, tu me donnes pas ce bébé !» Et je me dis « Mais Anne-Sophie, non, tu peux pas faire ça.
Ouais. » Est-ce que tu as eu d'autres épisodes de grossophobie dans ton parcours de grossesse ou à l'accouchement?
Alors, quand tu fais les échographies...
Ouais. Ah oui.
Les échographies... Première échographie, tu sais, on doit compter ce qu'il y a bien de mains, de pieds, le nombre d'orteils, la clarté nucale et tout. On me conseille quelqu'un... pas très loin de l'opéra, en disant « Elle est excellente, merveilleuse, vas-y, je prends rendez-vous. » Nous y allons tous les deux. Et là, elle me voit. Et je vois sa tête se faire « Ça va pas être simple. »
Ouais, ok.
Et là, je me dis « Anso, tu laisses glisser. » Ouais. Et elle fait l'examen. Et évidemment, comme tu as de la graisse sur l'abdomen... le tissu graisseux est un rempart à une bonne visibilité échographique. Et en fait, Clément était, il a été en siège toute la grossesse.
Ok.
Mais il a été en siège parce qu'il avait le cordon entouré trois fois autour du cou.
Ah oui.
Il ne pouvait pas bouger. Et donc, compliqué si tu veux pour faire des examens, mais il ne pouvait pas faire autrement. Et moi, avec la complexité, effectivement, d'un ventre plus volumineux que nature. Et là, pendant une heure, la radiologue m'enfonce, toi, l'échographe dans le bide, et elle appuyait, et elle me faisait mal. Je lui disais, mais putain, vous me faites mal, quoi. Oui, mais enfin, c'est votre faute, on voit rien. Si vous n'étiez pas aussi grosse, on n'en serait pas là. Moi, je fais ce que je peux. Mettez-y un peu du vôtre. Et là, je serrais les mâchoires. Et je me suis dit, fais ton examen, regarde tout ce qu'il faut, après je m'occupe de toi.
Incroyable.
Mon cher étant qui me serrait la main en disant, elle va l'envoyer dans les plots, elle va pas comprendre ce qui va lui arriver. Et puis, au bout d'une heure, elle me dit, bon, ok, c'est bon, alors tout va bien, mais pitié, la deuxième écho, vous venez pas me voir.
Non, c'est pas vrai.
Et là, je m'essuie le ventre, je me rhabille. Puis je prends un petit papier, qu'un calepin. J'ai alors votre nom, c'est docteur, ok. Adresse, ok. Votre numéro de matricule sécu, c'est quoi? Et là, elle me regarde. Et elle me dit pardon. Non, parce que je vais faire un signalement.
Mais bien sûr.
De votre comportement. Et là, tu la vois se décomposer. Elle me dit pardon. Et elle me dit mais moi, j'ai fait ce que je pouvais. Vous êtes. Je dis vous cumulez. Très bien. Monsieur à côté, il est avocat.
En plus, mais oui, c'est vrai.
On continue. Ok, on continue. Donc, je rajoute un tiret. Tu as bien noté parce que, voilà, bon, on pourrait me dire qu'éventuellement, toi, tu représentes la loi. Donc, tu pourras attester ce qui vient de se passer. Et là, elle est devenue blanche. J'ai dit, vous savez ce que vous venez de faire? Ça s'appelle purement et simplement de la maltraitance, de l'inégalité aux soins. Je vais en référer au ministère de la Santé, à l'ARS et au Conseil de l'Ordre. Je continue. Et là, elle me regarde, elle me dit « Vous êtes qui ?» Je lui dis « On n'en a rien à faire qui je suis. Je suis une mère qui veut juste son enfant et qui veut être face à un professionnel de santé qui fasse correctement son travail. Ni plus ni moins. Si vous n'êtes pas capable de ça, vendez des pains au chocolat. Mais arrêtez médecine. Vous n'êtes pas faite pour. » Évidemment, j'ai suivi mon truc. Et quelques années après, ça a donné des recommandations de bonne pratique à la Haute Autorité de Santé.
Oh.
Je me suis dit, je vais essayer de sécuriser toutes les femmes possibles et inimaginables. Donc, il y a des recos qui sont sortis, opposables à la loi. Et là, je me dis, ça, c'est fait.
Bravo.
On continue. Donc ça, je dis, voilà, vécu. Les autres échographies, je les ai faites à l'hôpital.
Ouais. Au niveau de c'est pas le matériel, mais est-ce que c'est adapté?
Non.
Non, c'est pas adapté.
Le tensiomètre pour prendre ta tension. J'étais à risque près avec l'AMSI les deux derniers mois et demi. Ouais. Donc j'étais trois fois par semaine à l'hôpital. On prenait ma tension en permanence. Le matériel n'était pas adapté. Donc de temps en temps, t'entendais dans les examens. Ouais, alors le brassard pour les gros, il est où? Et là, tu te dis, coucou, c'est quoi ton nom? Comment tu vas?
Matricule, allez.
Oui, c'est ça. Et là, elle se retourne et elle dit « Oh, pardon. Non, mais tout va bien, en fait. Mettez-moi avec les vaches et les cochons. » Mais je dis « Eux, au moins, je les aime bien. Ah, ils sont chaleureux, empathiques, doudous. On va se comprendre. » Et un jour, Clément était en siège, donc on n'arrivait pas à faire l'échographie. Et l'échographe, qui, elle, était humaine et une vraie femme, j'ai envie de te dire, elle me dit « Écoutez, il y a un truc qui marche parfois. Vous montez à la cafette et vous faites un shoot de sucre. »
Ah oui, d'accord.
Et le sucre, l'excès de glucose, va faire que le gamin va se retourner.
Ok.
Mais dis, on a une marge de manœuvre de un quart d'heure, 20 minutes. Donc, j'ai dit « Écoutez, s'il n'y a que ça, je vais y aller. » Je ne mangeais plus de sucre hein, du tout. Mm. Et d'ailleurs, le test de glycémie quand tu es enceinte, là, mais j'ai cru que j'allais vomir dans les plantes. Oh, catastrophe. Et je fais mon pic de... Enfin, je vais à la cafétéria, je prends alors tout ce qu'il fallait pas, entre guillemets, bar Mars. Enfin, j'avais 3-4 trucs ultra caloriques et ultra sucrés sur le plateau. Il était 8h30 du matin. Et là, il y avait un couple de personnes âgées qui étaient devant moi. Et la caissière me regarde et puis commence à taper. Et la petite dame range sa monnaie pour boire son café. Et puis elle dit à son mari, elle dit, c'est pas étonnant qu'il y a des gens qui sont gros vu ce qu'ils mangent. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que... Tu sais, dans ta tête, tu te dis, je me justifie pas. Puis qui elle est? Puis je dis, bah ouais, c'est sûr. Hein. C'est pas en suçant des glaçons qu'on va maigrir. Hein. Et je me dis, mais... Rentre chez toi, en fait.
Ouais, ça prend de l'énergie, tout ça.
Mais c'est constant, c'est tout le temps. Tout le temps. Et le bébé s'est retourné 10 minutes après, et tu le sens. Et je dis à mon chéri, on y va là, maintenant, tout de suite. Donc, on y est allé, et elle m'a dit, vous tapez à la porte, je vous prends immédiatement. Et on a eu un quart d'heure. Et dans ce quart d'heure... Elle a pu prendre tous les repères qu'elle avait besoin. Et ma petite crevette allait bien.
Ouais.
Mais tu te dis, c'est compliqué. Et tu vois, bon, risque de pré-éclampsie, donc accouchement sous césarienne, évidemment programmé.
Ouais.
J'avais mon dossier médical, donc j'ai des allergies. Donc évidemment, dans mes allergies, pas de bétadine.
Mmh.
Donc il me faut... Il me faut autre chose que la bétadine. Je rentre au bloc opératoire et là, je vois que des flacons de bétadine. Et je regarde l'infirmière, je dis, c'est pour qui là, la bétadine? Bah, elle me dit, c'est pour vous. Je dis, ah, alors, c'est marqué en gros, en rouge, sur le dossier, allergique à la bétadine. Donc, j'ai dit, vous voulez me tuer? Puis, ça commence bien. Et elle me regarde et elle me fait, oh putain. Mmh. Donc, elle m'a ressorti du bloc.
Oh là là.
Elle a viré toute la bétadine. Elle a mis la biceptime. J'ai dit, je continue à screener ce qu'il y a sur les plateaux techniques ou pas. Et puis là, je vois arriver l'anesthésiste et son aide, anesthésiste. C'est deux femmes. Et elles discutent entre elles. Puis elle me dit, ça va être compliqué. Et là, je fais, bon, alors, comment te dire? Là, j'ai un ventre comme ça.
Ouais, et puis t'as le stress de l'accouchement, enfin, comme
et puis,
les femmes.
Alors, stress de l'accouchement. Et puis, alors moi, j'avais mal partout, comme toutes les femmes prêtes à accoucher, hein, évidemment. Mais j'avais pas envie de le lâcher, mon bébé.
Mmh.
Il était tout à moi qui voulais pas d'enfant. Il était à moi, je voulais pas accoucher.
Ah oui, d'accord.
Et parce que je l'avais, on s'aimait.
Ouais.
Et je
c'était bien comme ça.
Et je le protégeais. Ouais. Et ma vie m'allait très bien, si tu veux.
Ouais.
Et là, tu dis, bon, Anne-Sophie, on va retourner voir un psy. Mais toi, tu te dis, finalement, l'amour que je n'avais pas reçu, je lui donnais, sans même qu'il ait vu le jour.
Ouais.
C'est pour ça que j'ai caressé mon ventre pendant 9 mois. Et là, je les ai regardés, j'ai dit, écoutez, on va jouer cash. Mais vraiment, carte sur table. Je lui dis, voilà, moi, je vais au bloc opératoire pour assister à des opérations régulièrement dans le cadre de mon boulot, etc. Donc, pitié. Alors, vous ne me la faites pas à l'envers, on va faire court. Vous avez besoin de quoi? Quelles sont les informations qui sont importantes pour récupérer, pour qu'on puisse avancer au mieux dans l'intérêt de mon bébé et de moi? Et là, je les vois toutes les deux arriver de chaque côté de la table de bloc. J'en avais une à droite, une à gauche. Et elle me regarde et dit, c'est vrai. J'ai dit, excusez-moi, mais il s'agit de notre vie. Donc, oui, c'est vrai. Donc, elle me dit, alors voilà, donc, vu que vous avez une obésité, on n'arrive pas à avoir les repères au niveau de la colonne vertébrale. Donc, il faut qu'on pique à des endroits précis. Et si on tape à côté, soit effectivement le produit passe pas, soit bah, il y a une autre complication qui s'appelle évidemment ne plus jamais sentir vos jambes.
Ouais, pour la péridurale.
Hein. Ah, voilà. Et j'ai dit, bon, eh ben, on va être très clair, on y va. Alors, je les avais, mais en mode liquéfié.
Ouais.
Et je me dis, mais... Et j'avais d'ailleurs dit, parce que quand j'avais fait mon risque de prééclampsie 2 mois et demi avant l'accouchement, je vois ma sage-femme, parce que j'avais refusé d'être suivie par un médecin. J'ai dit, moi, les égos surdimensionnés, comment vous dire que ça va pas être possible? J'ai dit, avec vous, ça se passe très bien, Michel. Donc, on reste toutes les deux. Et elle me dit, oui, mais il faut que je demande l'autorisation. Je dis, moi, vous avez la mienne, ça suffit. Vous démerdez avec les blouses blanches. Moi, je ne veux pas en voir un seul. À part s'il y a complications extrêmes. Mais j'ai dit, on reste que toutes les deux.
Okay.
Et elle avait dit, bon, c'est pas le process habituel, mais alors elle me dit, vu que vous en connaissez un rayon assez armé sur le sujet, ok.
Ouais, heureusement, quoi. Enfin, celle qui connaît rien et qui débarque...
Et c'est pour ça, l'associatif.
Ouais, on va en parler juste après, mais...
C'est pour ça. Et elle me dit, bon, ok, on y va. Et je vois passer une infirmière. Donc, j'étais assise comme je pouvais sur la table de bloc. Et je vois passer une infirmière. Je dis, alors là, j'ai besoin de vous, là, maintenant, tout de suite, en fait. Et elle me dit, je fais quoi? Ben, je dis, je vais prendre votre main. Vous allez me serrer les mains. Et vous m'assommez absolument. Vous me parlez, vous me parlez, vous me parlez, vous me parlez. Il faut que mon esprit ne se passe pas dans mon dos. Il faut qu'il soit absorbé par ce que vous allez me dire.
Ouais.
Donc, j'ai dit, alors là, ça va être la fontaine, vous vous lâchez. Et elle me regarde, elle me dit, j'ai jamais fait ça. Et j'ai dit, il y a une première fois à tout. Alors, on y va. Allez, un, deux.
C'est toi qui la coach, quoi.
Mais j'adore. Ça a été ça, en fait.
Ouais.
Et les deux anesthésistes, elles me disent, alors, on n'y est pas. J'ai dit, faites comme vous voulez, mais putain, on y va.
Ouais.
Et au moment où elles ont mis le cathéter, elles m'ont dit, c'est bon, on y est. Je dis, maintenant, on injecte. Et je lui dis, je dois, c'est quelles sont les sensations? Parce que j'avais jamais eu de péridurale. Elle me dit, vous devez sentir ça, ça et ça et ça. J'ai dit, ok, alors moi, je sens encore mes jambes. Donc, je lui dis, il n'y a pas assez de dose. Donc, on réinjecte. Et la problématique de l'obésité, c'est qu'en fait, ça, l'amas graisseux bloque l'anesthésion.
Ah, d'accord.
Donc, en fait, tu es obligé de...
Surdoser.
De surdoser, ouais, pour que ton anesthésie fonctionne. Alors évidemment, ça va durer plus longtemps dans le temps et il faut effectivement super bien observer la phase de réveil.
Mmh.
Donc on y va, on était parti et je vois arriver la chirurgienne qui me dit bonjour madame. J'ai dit bonjour, bonjour, vous allez bien? Ouais, je vais bien. Et vous? Bah, j'ai dit écoutez, ça ira mieux quand tout se sera bien passé. Et là, ils me mettent un champ opératoire. Ils avaient accepté que mon cher étant assiste en mode décomposition avancée nerveusement à ma droite. Et ce que je n'avais jamais dit, c'est que durant la césarienne, je voyais toute l'opération se dérouler dans le reflet de la glace de la porte.
Ouh là là, ça t'a rassurée ou ça t'a...
Ça m'a rassurée.
Ah bon, tant mieux.
Parce que moi, je
serais tombée dans les pommes, je
pense. Ouais, mais moi, j'aime beaucoup assister à des opérations. J'apprends beaucoup. Donc en fait, j'ai assisté finalement à mon accouchement en diagonale.
Mmh. Et alors, comment s'est passée la rencontre avec ton baby?
J'ai pu le lâcher.
Ouais.
Ils me l'ont apporté. Alors déjà, j'ai la chirurgienne. Parce qu'en fait, ils ont essayé... Alors, excuse-moi, petit épisode que j'avais un peu loupé. 15 jours avant l'accouchement, donc je fais mon examen de pré-éclampsie. Et puis tout d'un coup, je vois arriver deux madames qui me disent « Bon, bah, en fait, Madame Jolie, on va vous mettre dans une salle d'opération, enfin, dans une salle d'accouchement parce qu'on va essayer de retourner le bébé. » Et là, je me dis « Pardon, faire quoi ?»« Oui, non, on va refaire quelques petits examens pour être sûr. » Et puis moi, dans ma tête, je me suis dit « Bon, examen, pas accouchement. » Et puis là, tout d'un coup, je les vois revenir. J'avais retiré mes chaussures. Elle m'avait demandé de retirer le bas, donc j'avais retiré le bas. Et puis, je les vois arriver en train de mettre des gants et en train de retirer du matériel stérile. Et là, je fais « Stop !» C'est quoi ça? Et elles me disent, oui, ben, parce que là, on va essayer de le retourner. Donc, si ça se passe pas bien, on va devoir accoucher en urgence. Je dis, pardon. Alors, attends. On va reprendre l'info. Donc, on reprend tout, du début jusqu'à la fin. Pourquoi faire? Non, mais c'est en fait, voilà, pourquoi faire?
Là, en fait. Il y a une urgence.
Voilà. J'ai dit là parce qu'en fait, je dois encore, j'ai un mois où je peux accoucher. Là, il y a une programmation dans 15 jours. Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller m'emmerder et d'aller emmerder mon bébé un mois avant? Oui, mais vous, ça... je dis non, stop, t'arrêtes tout de suite. C'est fini, tu remballes ton matos. Moi, je suis sortie du lit. J'ai mis mes chaussures. Je crois que enceinte, je n'ai jamais couru aussi vite. Entre la salle et ma voiture. J'étais comme ça. Je tremblais, mais de tous mes os. J'ai appelé mon chéri qui était au tribunal. Je lui ai dit, s'il te plaît, viens tout de suite. Elles ont voulu m'arracher mon bébé. C'est pas possible. Il a pris un taxi, il s'est pointé. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Et quand Clément est né, il y a la gynéco-obstétricienne qui dit, mais le pauvre, il ne pouvait pas bouger. Il avait le cordon trois fois entouré autour du cou.
Ouais, ce que tu disais.
C'était impossible. Et ils me l'ont présenté. Et là, le temps s'arrête. Le temps, enfin, c'est... Pff, je suis désolée, mais... Pff,
ouais, oui.
Je savais pas que ça allait être aussi émotif. Le temps s'arrête et on s'est jeté sur lui. On l'a collé. Et t'avais la je sais pas si c'était une sage-femme ou une infirmière qui le tenait, tu sais. Hein. Il disait, non, mais alors là, il faut le lâcher. Là. J'ai dit, ouais, il n'y a pas... Non, on s'en fout. Elle dit, non, mais là, il faut que j'aille l'habiller parce que là, il est un peu froid parce qu'on est un peu au bloc opératoire. Mais... Puis là, il faut que j'aille le... Et je dis à mon chéri, je dis, tu ne le lâches pas.
Ouais,
jamais il est tout seul. Jamais. Et là, en fait... C'est plus toi. Enfin, c'est toi, mais... Enfin, tu deviens lionne. Et l'obstétricienne me dit, ça va, Madame Jolie? J'ai dit, oui, moi, c'est pas grave. Moi, s'il m'arrive un truc, c'est pas grave. Et j'avais fait un pacte avec la sage-femme, quand j'avais fait la pré-éclampsie, devant mon chéri, je lui avais dit, on est bien d'accord. Je veux que vous me le juriez et je vais signer un papier. S'il y a un problème, vous sauvez le bébé, vous me sauvez pas moi. Et elle me dit, c'est pas possible. J'ai dit, écoutez-moi bien, j'irai vous hanter jusqu'à la fin de vos jours. Mais je vous jure, sauvez mon bébé, pas moi. Et c'était compliqué. Et Christian, il me dit, je peux pas entendre ce que tu me dis. J'ai dit, je te demande pas si t'es d'accord, en fait. C'est lui.
Ouais. Est-ce qu'il y avait des risques, ton bébé, et de l'obésité?
Oui.
Ouais.
Oui, il y avait un risque qu'il soit obèse, il y avait un risque que ça se passe pas bien, il y avait un risque de fausse couche qui était multiplié par 8.
Et il est né au poids
Il est né, il faisait 3,450 kg, 52 centimètres.
Il a un suivi particulier, lui, ou...
Bon, il a maman en termes de suivi.
Ouais.
on fait attention.
Ouais. Mais, il a 8 ans, 9 ans, là,
tu 9 ans. Disais, oui. Mais par contre, tu vois, là, il y a des bonbons à la maison. Alors, une fois, j'ai quelqu'un de la famille qui me dit « Surtout pas de bonbons à la maison !» J'ai dit « Chère, toi, en fait, c'est l'archétype du truc qu'il ne faut pas faire. Priver. Parce que plus tu prives, le jour où tu te lâches, c'est terrible. Donc, j'ai dit, ben, voilà, j'ai dit, on surveille, mais il va se manger 1, 2, 3 bonbons. Il va pas se manger le paquet.
Ouais.
Il va pas se manger le paquet. Il a faim. Idéalement, c'est durant les heures de repas. Mais s'il a faim au goûter, s'il a faim machin, ok. Mais toi, il y a des fois, il arrive parce qu'il est pas trop petit déjeuner, Clément. Ouais. Il arrive à 10h30 en disant, ah maman, j'ai faim. Bah ok. Alors attends, il y a du jambon dans le frigidaire. Il y a du chèvre. Enfin, tu veux quoi? Il va repartir avec un chèvre. Où il va repartir qu'une tranche de jambon. Donc voilà.
T'es vigilante sur son rapport à la nourriture, ouais. Mais pas à l'extrême.
Ah non, je ne suis pas une terroriste de la nourriture là-dessus.
Et là, il est dans la courbe.
Il est dans la courbe. Oui, il est juste plus grand que la courbe. Parce qu'on n'est pas particulièrement petit. Mais il est complètement dans la courbe.
Ouais.
Toi, regarde, je croise en début de semaine un voisin dans l'immeuble. Et puis... Bon, il était tard, il était 21h, moi je rentrais du bureau. Et je le vois avec des pizzas à la main et puis un pot de glace. Mmh. Et je fais, ah, c'est sympa de nous rapporter le repas, on va pouvoir manger des pizzas. Enfin, je plaisante. Et puis, je vois son fils qui doit avoir 12-13 ans et je lui dis, ah, tu fais du rugby? Parce qu'il était habillé. J'ai dit, tu fais du rugby ou du foot? Et il me dit, ben, je fais du foot. Et le papa me regarde et puis il me dit, vous, votre fils, il fait pas de sport. Sous-entendu, vous êtes grosse, donc vous faites pas de sport. Donc, votre enfant fait pas de sport.
Mais les gens ont des raccourcis. Et ouais. C'est incroyable.
Et là, okay. Je le regarde, je dis, non, vous avez raison, il fait pas de sport, il fait de la natation. Et là, en fait, il dit, ah oui, oui, c'est un sport. Ah oui, puis ça fait marcher tous les muscles. Ben, je dis, puis surtout, il aime.
Tu parlais d'une asso que tu as créée.
Oui.
Ça a été suite à tout ça? Suite à ta maternité ou
non, je l'avais déjà créée avant.
Ok. Comment c'est venu
C'est venu du fait que lorsque j'ai voulu prendre en charge ma santé, j'avais pas les réponses, que les médecins n'étaient pas formés, que je voyais bien que j'étais pas la seule à galérer, mais vu que j'ai un peu le caractère fourni pour.
Ouais, ce qu'on disait, les outils médicaux.
Alors.
Que d'autres n'ont pas, quoi.
Exactement. Et je me suis dit, toi, tu as réussi, Anne-Sophie, à obtenir des infos et aller au bon endroit à l'époque. J'ai dit, les autres, ils font comment? Et tout est parti de là.
OK. Comment s'appelle cet asso?
Le Collectif National des Associations d'Obèses, qui est agréé par le ministère de la Santé.
D'accord.
On travaille à l'interministériel, au CNA, qui est le Conseil National de l'Alimentation, qui est sous la tutelle de 4 ministères, donc ministère de la Santé, Agriculture, Alimentation, Écologie et Finances. Donc on travaille sur des projets de loi. Soit on s'auto-saisit, soit on est saisi par les ministères. Et puis je travaille à la Haute Autorité de Santé, donc qui est l'organisme de régulation opposable à la loi, à l'ARCOM, qui est anciennement le CSA, sur la charte alimentaire avec des obligations et des interdictions, mais des obligations de promotion à la santé et d'information à la population. Là, je suis rentrée depuis le début de l'année à ce qu'on appelle l'ARPP et le CPP, donc le Conseil paritaire de la publicité. Et l'ARPP, c'est le régulateur de la publicité pour une meilleure diversité de représentation des corps.
Et oui,
c'est sur les médias.
À faire être,
c'est ça.
C'est énorme. Enfin,
c'est ça.
Pourquoi ça bouge pas?
Ah bah parce que tant que t'es pas dedans, il se passe rien.
Ok, parce qu'il y avait aussi tout ce mouvement body positive.
Ouais. Alors body positive, oui, mais La nuance que nous, ASOS, CNAO, on donne, c'est faites attention à votre état de santé.
Ouais. En gros, on se fiche un peu de l'enveloppe corporelle, c'est ce qui a l'intérêt.
C'est votre santé mentale et physique.
Ouais, bien sûr.
Après, on est comme on est, mais prenez soin de vous. Et on vous donnera les outils de connaissance pour prendre soin de vous.
Ouais.
Ou en tout cas, il faut que vous ayez cette information-là, et puis quand vous sentirez d'y aller, vous irez. Ou en tout cas, vous l'aurez en vigilance. Donc, on travaille à l'international au niveau du Parlement européen de Bruxelles. Et puis, j'ai été missionnée par le ministère de la Santé et le PNNS, le Plan National Nutrition Santé, pour piloter un groupe de travail sur un rapport à remettre au ministre. Alors, ça devait être remis là, le 4 mars. Mais il y a eu, comme qui dirait, des chaises musicales au ministère de la Santé. Donc, ça a pris du retard. Mais avant l'été, je remets un rapport avec des directives que le ministre pourra s'emparer, j'espère, sur comment lutter contre la grossophobie et quels sont les axes d'amélioration qu'on peut faire pour effectivement faire que la société ait un autre regard sur les personnes souffrant de surpoids et d'obésité et puis avoir une égalité à tout niveau.
Eh oui.
Qu'elle soit en soins ou que ça soit
recrutement.
Autre, exactement.
Oui.
Les vêtements, enfin voilà.
Oui.
Parce que s'habiller quand t'es enceinte.
Et ou même les structures, on en parlait.
Ouais. Matériel, etc.
Ouais.
Donc voilà, et puis enfin tout un tas de choses. Et je donne modestement des cours à la Sorbonne Médecine, à la Pitié-Salpée, sur des DU, des DU, et des 4e, 5e, 6e année de médecine. Mais enfin, c'est une goutte d'eau.
Ouais, mais ça fait
bien. Dans le truc, quoi.
Toi, tu as vu sur le terrain, tu es concernée, donc une vraie action, c'est pas du bullshit, quoi.
Non.
Et tu y vas comme tu peux, mais tu y vas, quoi.
C'est ça.
Tu reçois des femmes qui sont concernées aussi, qui, ou tu as des messages de femmes qui passent par la maternité, par exemple, qui t'envoient des demandes, des messages?
On a surtout eu des femmes qui étaient en désir d'enfant et qui n'arrivaient pas à tomber enceinte.
D'accord.
Parce que l'obésité, effectivement, est un frein à la fertilité.
Ouais.
Mais que ce soit homme ou femme, hein, les deux. Et là, effectivement, on a eu des femmes désespérées, et je le comprends plus que très bien. Donc, c'était voir avec elles quels étaient les chemins qu'elles pouvaient prendre et ce qui était le plus sécurisant pour elles. Donc, en fonction de là où elles sont, on leur donne, on leur propose des endroits, on leur propose des personnes qui savent de quoi ils parlent. Donc, généralement, c'est les CSO, les centres spécialisés obésité, hein, qui sont sous la tutelle du ministère de la Santé, où on sait que c'est sécurite.
D'accord.
Et puis bon, là, on parlait de la pitié salpêtrière. Il y a une unité spécifique pour les femmes enceintes qu'on a réussi à monter sur, voilà, j'ai une obésité, je suis opérée ou pas opérée. Voilà, je fais comment pour pouvoir avoir une grossesse, ou alors je suis tombée enceinte et je veux avoir un suivi qui est plus spécifique, parce que attention à la dénutrition de la mère et de l'enfant, pitié. Il y a des malformations cardiaques et respiratoires chez les bébés, parce que parfois, soit il y a une chirurgie bariatrique, comme il y a un bypass qui va effectivement être difficile pour le bébé et qui va créer des malformations parce que la maman se nourrit pas assez. Les apports vitaminiques, oligo-éléments, capital, la santé mentale, capital. Enfin, il y a tout un tas d'examens, de paramètres à avoir en ligne de compte, d'où les recos qu'on a réalisés.
D'accord. Et là, tu publies un livre.
Ouais.
Je n'ai pas choisi d'être grosse. Est-ce que c'est le message que tu as envie d'envoyer à déjà tous ces professionnels que tu as rencontrés?
Connaissent par cœur. Oui. Oui, et puis à la société en règle générale, ouais. Parce que la société a un regard... Je faisais un parallèle la dernière fois, je me disais, mais tu sais, au Moyen-Âge, tu avais les corsets des femmes.
Mm.
On s'est libéré des corsets physiques, mais pas des corsets sociétaux.
Ouais.
Et le corset sociétal, il est terrible. J'ai l'impression que la libération de la femme, on en est loin.
Mm.
On en est très, très loin. Et c'est pour ça que je me trouve parfois féministe je suis une femme, je suis fière d'être une femme, je fais ce que je peux, comme toutes les femmes. Et quel courage elles ont.
Oui.
Mais quel courage elles ont. Et je me dis, quand je vois chouiner, j'aime les hommes, hein, c'est pas le souci, mais quand je les vois chouiner, alors le mien le premier, hein, quand il me dit « Oh, je me suis fait un bobo », je dis « Pardon, attends, on va reprendre. Vas-y, refais-le-moi. » Alors, sa famille est morte de rire parce qu'il dit « Alors, on ne sait pas lequel des deux est l'avocat de l'autre, en fait. » Parce que quand Anne-Sophie part en plaidoirie, t'es mort, en fait, t'es mort. Donc, j'ai dit « Mais tu te plains de quoi ? Explique-moi un tout petit peu. Vas-y, allez, pause. »
Et c'est un message que tu transmets aussi à ton fils ?
Oui, oh là oui.
Quel rapport lui est là avec l'obésité ?
Il l'a vécu pas bien.
Ouais, vers quel âge ?
Écoute, il devait avoir 4 ans et demi, je vais le chercher à la maternelle, et je le récupère. Alors Clément, il est comme moi, hein, c'est un hypersensible. Hein. Il analyse beaucoup, il réfléchit beaucoup, enfin, il est très dans l'observation. Et puis là, je le vois, je le récupère, et il est pas bien, je dis « Qu'est-ce qu'il y a, loulou ? Dis-moi. » Et on était sur le trottoir, on s'assoit sur un banc, et puis il me dit bah en fait, toi, il y a mon compagnon de classe qui m'a dit que t'étais grosse, que t'étais une grosse vache et que machin.
Mmh. Et là, j'ai 4 ans.
Ouais. Et là, j'ai fait d'accord. Alors, attends, bouge pas, maman va t'expliquer un truc. Et je lui dis, mais c'est pas un choix. Je dis, l'obésité, c'est une maladie, c'est une maladie chronique qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est une maladie du tissu adipeux. Et ça commence comme ça. Après, il y a une inflammation du tissu adipeux qui se fibrose. Et en fait, bah, ça fait que bah, finalement, tu maigris plus comme tu le voudrais. Et puis, bah, au lieu d'éliminer les toxines, tu vas les garder. Donc, je dis, maman n'a pas choisi d'être grosse. Et en fait, le regard qu'apporte ton petit copain de classe, il doit, à mon avis, répéter ce qu'il entend de la part des adultes. Et ben, il pense qu'il est intéressant en se faisant l'écho d'un truc un peu pourri, et puis en voulant jouer le kéké de la classe, et puis en se disant « j'ai fait mal à quelqu'un qui est posé, qui est tout gentil, qui dit rien », ça va être drôle.
Il y a un vrai travail à faire ça, à l'école.
Ça fait partie du rapport.
Harcèlement.
Exactement. Et ça fait partie du rapport que je vais remettre au ministre.
C'est hyper important.
Et j'ai prévenu, je ne préviens... Enfin, ce rapport, il ira au ministère de la Santé, il ira à Matignon et il ira à l'Élysée.
Ouais.
D'où le livre. Où je me suis dit, je n'ai pas envie que ce rapport avec ce travail, qui est tellement important, pas pour moi... Pour la plupart des gens qui souffrent de surpoids et d'obésité, je veux pas que ça soit un rapport poussiéreux sur une étagère. Donc, on fait le livre. Voilà, j'explique ça à Clément. Et puis, 2-3 jours après, l'ironie des sorts fait que je me retrouve en interview et je passe au JT. Et là, il me regarde et puis il me dit « Alors attends, maman, t'es à la télé, t'es sur le canapé, t'es à la télé, c'est quoi le truc ?» Je dis « Mais maman, elle a fait son boulot. Je fais juste mon boulot. » Il me dit d'accord. Et puis bon, c'est tout. Se passe une semaine. Et puis je le récupère à l'école un soir. Et puis je le vois, mais guiré comme un pinson. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Il me dit, tu sais le petit copain qui se moquait de toi en disant que t'étais grosse ? Eh ben, il me l'a refait. Il me dit, tu sais ce que je lui ai dit ? J'ai dit non. Eh ben, je lui ai dit, bah, ma mère, elle est peut-être grosse, mais la mienne n'a pas ça à la télé. Pas la tienne. Je l'ai regardé, j'ai dit, alors, ça c'est fait. Je dis, ouais, je comprends Clément.
Mm.
Mais j'ai dit, voilà, c'est pas une gloriole de passer à la télé. C'est, voilà, c'est...
Ouais, pour les enfants, si, c'est... mais en tout cas,
alors, il a
trouvé une façon de rebondir.
Il me dit, mais en fait, t'es une super-héros, maman.
Ouais.
J'ai dit, écoute, merci mon fils. Mm. Mais j'ai dit, l'essentiel, c'est toi. C'est toi et ton âme. Donc, sois droit avec toi-même. Donc oui, je fais ce que je peux pour le préserver de l'obésité, pour essayer de lui inculquer mes valeurs à moi, en lui disant, t'auras toujours des gens qui vont venir t'agresser, te machin, ça fait partie de la nature, c'est comme ça. Maintenant, tu les analyses, tu les tiens à distance.
Et le terme grosse, quel est ton rapport avec ce terme-là ? Enfin,
qui
n'est pas un terme.
Qui est un mot commun. Il y a des fois, tu le prends bien, il y a des fois, tu le prends pas bien. Ça dépend comment c'est dit.
Ouais, parce que moi, par exemple, j'explique à mon fils, tu vas me dire si c'est la bonne manière, que c'est pas une insulte en fonction de la manière dont tu vas le dire. C'est un adjectif comme tu peux être grand, tu peux être petit,
c'est ça.
Tu peux être grosse, tu peux être maigre.
C'est ça.
Mais en revanche, c'est l'intonation que tu vas y mettre et ce qu'il y a derrière qui va faire que tu vas blesser potentiellement quelqu'un. Ou tu vas juste qualifier quelqu'un de c'est pas une insulte en quoi.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis alors nous on essaye de dire voilà c'est on met en avant la personne en premier, c'est que voilà on souffre d'obésité, parce qu'on a l'obèse, le diabétique, le cancéreux. Non, on est d'abord une personne et avec une pathologie. Et effectivement oui c'est un mot qui voilà oui on est grand, on est petit, on est gros, on est maigre. Mais c'est la façon dont tu vas le... Tu es d'accord ? Dont tu vas l'enrober.
Oui. Si c'est descriptif, bon, bah, c'est
descriptif. Ouais.
Insultant, bah, tu le sais aussi.
Oui, ouais. On voit bien le truc.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
Ma vie ?
Ouais.
C'est le plus beau cadeau que j'ai eu. Bon, même si parfois, tu le cours après en disant « Va te laver les dents 15 fois, va ranger tes trucs. » C'est le plus beau cadeau de la vie que j'ai eu. Tu sais, je peux pas dire plus que ni moins que ça. C'est et je me suis dit et toi quand je cherchais à être enceinte, j'avais dit à mon cher et tendre, je veux pas forcer les choses. Si la vie me dit que je dois avoir ça ou pas l'avoir, j'accepterai.
Mmh.
Je pense qu'on a tous un chemin, une destinée. Enfin, on a des choses à faire, on a des leçons à prendre, on a et que je me dis qu'à chaque fois que j'ai un coup dur qui me tombe dessus, faut que j'en tire le plus positif du monde. C'est pas toujours simple, t'as pas toujours envie, tu te dis que c'est injuste, que machin, mais je me dis, mais contentons-nous déjà de voir la chance qu'on a à différents niveaux. Et c'est la plus belle chose que j'ai fait.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Vas-y.
C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Alors, je sais pas s'il y a une différence entre parisienne ou provinciale. Parce qu'en fait, tu passes ton temps à courir. C'est juste que le décor change, pour moi. C'est juste que le décor change. Perso, je préférerais être une maman provinciale.
C'est un projet.
Oh là là. Problème, c'est que tous les ministères sont ici. Hein. Mais ouais, un jour, quand je serai grande, j'aimerais bien avoir une maison avec un jardin en face de la mer, avec des arbres et avec le truc très con, mais des filets pour pouvoir étendre mon linge dehors.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré ?
Partout où il y a des arbres et de la nature.
Ouais. Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Rien que pour moi, réussir à... C'est dur. Réussir mon combat. Et pour ma famille, continuer à les avoir.
Merci beaucoup Anne-Sophie.
Émotion, merci. Prenez soin de vous, pitié. Et ne doutez pas, et battez-vous.
Voilà les mamas, c'est un épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès mardi prochain pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. À très vite!
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.